et merci d'avoir choisi Europe 1, il est 7h.
C'est une belle réponse qui montre qu'on a réussi à retrouver de l'unité nationale. C'était nécessaire compte tenu de la situation épidémique dans notre pays.
Olivier Véran satisfait après l'adoption hier soir du projet de loi qui prévoit l'obligation vaccinale pour de nombreuses professions et l'extension du pass sanitaire. Le pass sanitaire déjà appliqué depuis hier dans certains cafés et restaurants du Calvados. On rejoint un restaurateur de Deauville, notre invité dans ce journal. Le trafic SNCF a repris. Ce matin, il est quasi normal en direction de l'ouest après les fortes perturbations liées au drame survenu hier en région parisienne. Un ingénieur de la SNCF a été enseveli sur le chantier de la gare de Massy dans l'Essonne. Et puis Emmanuel Macron est arrivé aux îles Marquises ce matin où il vient soutenir l'inscription de l'archipel au patrimoine mondial de l'UNESCO. À suivre, l'éclairage éco d'Emmanuel Duteil, comment le gouvernement tente d'enrayer la pénurie de bois dans l'Hexagone. Votre conseil santé avec le docteur Brigitte Milo et puis le journal des JO, tout ce qu'il s'est passé cette nuit à Tokyo, notamment le sacre d'une japonaise de 13 ans en skateboard. Ce sera avec Julien Froment, très bon réveil. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et le journal de 7h, c'est avec Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Théo, bonjour à tous. Une adoption au forceps à 156 voix pour et 60 contre. Le Parlement a donné son feu vert au projet de loi anti-Covid, texte qui prévoit l'obligation vaccinale des soignants et définit l'extension du pass sanitaire. On connaît donc précisément les modalités d'application de ce pass, Rémi Bossaon.
Oui, avec d'abord une application très importante au quotidien pour les Français. Le pass sanitaire sera bien exigé dans tous les espaces des cafés et des restaurants, tous les espaces. Ça veut donc dire également en terrasse, malgré l'opposition des sénateurs. En revanche, les centres commerciaux, eux, sont finalement exemptés, y compris les très grands. Pas besoin de présenter un pass sanitaire pour y faire ses courses, a priori, sauf si les préfectures en décident autrement. Et puis pour les employés de ces centres commerciaux, comme pour ceux des cafés et des restaurants, comme d'ailleurs pour les soignants, la menace d'un licenciement a disparu. Mais s'ils ne peuvent pas présenter de pass sanitaire quand il sera obligatoire, ils verront leur salaire suspendu. Quant aux mineurs, les 12-17 ans, ils auront bien besoin d'un pass sanitaire comme les adultes, mais seulement à partir du 30 septembre. Enfin, c'est important, les parlementaires ont également fixé une date de fin, a priori, pour ce dispositif. C'est le 15 novembre. C'est à cette date que prendra fin l'état d'urgence sanitaire. Si le gouvernement veut maintenir le pass sanitaire au-delà du 15 novembre, il devra faire voter un nouveau texte.
Mais j'ajoute que selon le projet de loi adopté, c'est l'assurance maladie qui vérifiera le respect de l'isolement obligatoire en cas de contamination avant de prendre d'éventuelles sanctions. Le projet de loi anti-Covid, qui doit encore passer le filtre du Conseil constitutionnel saisi par le Premier ministre Jean Castex, et par la gauche.
Le pass sanitaire qui a été mis en place dès hier dans les bars et restaurants du Calvados avec une semaine d'avance sur le reste du pays. On va appeler ce matin un restaurateur de Deauville. Bonjour Yannick Rubichon.
Bonjour.
Restaurateur à la cantine de Deauville et membre de l'association des commerçants de la Côte Fleurie. Merci d'être avec nous. Seuls les restaurateurs volontaires se sont lancés dès hier. Ils étaient nombreux à votre connaissance à Deauville et dans les environs.
À ma connaissance, oui, il y a quand même beaucoup de mes collègues qui ont suivi ce qu'avait demandé le préfet, donc de mettre en avance un peu ce pass sanitaire pour avoir la tendance, que ce soit du côté des clients ou du côté du personnel aussi du restaurant.
Et les clients, justement, ils ont joué le jeu. Comment ça s'est passé hier pour cette première journée?
Les clients ont joué le jeu. C'était une belle journée. Les gens étaient détendus. Il n'y a pas eu de problème particulier. Moi, je n'ai pas trop insisté sur ce fait-là parce que je pense que c'est un peu pour ça que je suis à l'antenne, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord pour le faire.
Voilà, vous avez choisi de ne pas forcer vos clients à présenter ce pass sanitaire. Vous dites ne pas avoir envie de jouer aux gendarmes. Vous n'avez pas peur des sanctions?
Si on m'oblige à le faire, bien sûr que je le ferai, parce que je ne peux pas fermer mon établissement. Je ne veux pas laisser tous mes travailleurs. Je ne vais pas me retrouver à ne pas avoir d'aide, à les licencier, tout ça, parce que je fais un peu ma tête brûlée. Mais ce n'est vraiment pas le cas. En plus, je ne suis pas un rebelle ni un complotiste, hein, mais je ne souhaite pas contrôler mes semblables, en fait. Ce n'est pas mon métier. Moi, je suis restaurateur. Je ne suis pas détenteur de l'autorité.
Parmi les gens à qui vous avez demandé le pass qui entrait chez vous hier, il y en a beaucoup qui refusent, qui n'ont pas envie de le montrer.
On voit bien qu'il y a un petit regard, oh là là, bon d'accord, oui on l'a, vous tenez vraiment à le voir. Donc non, c'est vraiment, vous savez, il y a vraiment de tout, hein. Il y a des gens qui le sortent même sans qu'on leur demande. Hein.
Il y a tout de même certains restaurateurs qui sont pleins d'une baisse de fréquentation, vous avez pu le constater?
Alors, une baisse de fréquentation, oui, mais d'un autre côté, sur la côte fleurie, nous n'avons pas beaucoup de touristes internationaux cette année. Comme vous le savez, nous ne voyons pas d'Américains ou de clientèle asiatique qu'on peut avoir à cette époque-là, normalement, bien évidemment.
Et donc,
on est un peu résigné, en fait. Puis c'est encore de nouvelles contraintes pour nous. Moi, je gère vraiment rien contre le gouvernement actuel, ni ceux d'avant, ni ceux de politique. Moi, je suis restaurateur, comme je vous le disais.
Mais c'est donc dans ce contexte de baisse de fréquentation, déjà, que vous n'avez pas envie d'ajouter des contraintes aux contraintes, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Yannick Rubichon, restaurateur à la cantine de Deauville et membre de l'Association des commerçants de la Côte Fleurie. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Il est 7h06 et face à la flambée de l'épidémie, le gouvernement espère une accélération de la vaccination. Émilie Dez, à ce jour, 60% de la population a reçu au moins une dose.
Mais pour limiter les transmissions, de nouvelles mesures restrictives ont été prises dans les Alpes-Maritimes, notamment l'interdiction de toute consommation d'alcool sur la voie publique et le retour du masque obligatoire en extérieur.
C'est l'une des informations de la soirée d'hier, une enquête ouverte après la mort d'un ingénieur de la SNCF enseveli dans un éboulement sur un chantier dans la gare de Massy, dans l'Essonne.
Et conséquence du drame, le trafic a été complètement interrompu entre Paris-Montparnasse et le Sud-Ouest. Hier, les trains en direction de l'Ouest ont été détournés. Au total, ce sont 70 TGV qui ont été impactés, provoquant une grosse cohue dans la gare de Montparnasse. Certains voyageurs pensaient devoir passer la nuit sur place. Reportage de Jean-Jacques Herry.
Ils sont des centaines à patienter, à attendre et à attendre encore. Certains sont assis sur des valises, d'autres scrutent les horaires des trains sur les écrans, mais ceux-ci ont disparu depuis plusieurs heures. Alors Louis, qui devait partir à Bordeaux avec son ami Romain, hausse les épaules.
Tous les trains sont juste annulés, on n'a pas le choix, on est obligé de rester là. Il n'y a pas d'autres solutions qui sont mises en place pour le moment, donc on attend.
Vous avez l'air de le prendre avec philosophie.
Bon, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, donc je vois pas à quoi ça sert de s'embêter à autre chose.
Ouais, sur Bordeaux, on devait rentrer tranquillement pour dormir, mais au final, on va attendre et dormir dans la gare. En tout cas, on va rester potentiellement jusqu'à 6h en espérant qu'il y ait de la place dans le prochain train que je vois sur le panneau derrière, mais je suis pas sûr.
Beaucoup attendent le départ, mais ils sont aussi très nombreux à guetter l'arrivée des trains, comme Jérôme, qui devait récupérer ses enfants il y a maintenant 3h.
Ils arrivent de Nantes, ils devaient arriver à 19h40 et apparemment ils sont après Chartres, donc ils ont dû prendre une voie de dégagement pour prendre un autre chemin. Et là en fait je sais toujours pas exactement, c'est surtout ça qui est casse-pied.
Donc vous bouquinez en attendant quoi?
Exactement, moi ça m'a permis de finir mon livre.
Heureusement, je suis vacciné, glisse en souriant un autre voyageur, parce que ce soir, c'est vraiment difficile de respecter la distanciation sociale dans la gare.
Jean-Jacques Herry, et le trafic a pu reprendre tard dans la soirée, il est quasi normal ce matin.
Il est 7h08 sur Europe 1. Emmanuel Macron est arrivé en Polynésie pour une visite de 4 jours. Il est ce matin aux îles Marquises.
Accueilli au son de dizaines de tambours et de chants de bienvenue, Emmanuel Macron vient notamment appuyer l'inscription des Marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Cette nature, cette culture qui font les Marquises, qui font la France ici dans le Pacifique, sont fragiles. Notre trésor, c'est cette nature et cette culture. Je me battrai à vos côtés pour que nous puissions classer à l'UNESCO les Marquises. Et le faire parce que c'est à la fois cette nature, cette biodiversité, ce n'est pas un mot technique, c'est votre vie. Ce sont vos paysages, ce sont vos oiseaux, ce sont nos paysages, ce sont nos oiseaux. Et se battre aussi pour ces traditions, cette culture, ces civilisations que vous portez et que vous honorez.
Les propos recueillis par Claudia Bertram.
À l'étranger, c'est un événement historique pour le Canada. Mary Simon devient la première femme autochtone à occuper le poste de gouverneur général.
Canada, si vous ne voulez pas, mais...
D'origine inuite, elle s'est adressée à la presse en Inuktitut. Comme vous pouvez l'entendre, Mary Simon a assuré qu'elle prenait très au sérieux son rôle de défenseur de la diversité culturelle et linguistique. Diversité qui, dit-elle, rend le Canada unique.
Et si on vous en parle ce matin, c'est parce que sa nomination, Émilie Dez, intervient dans un contexte très particulier.
Des centaines de tombes anonymes ont récemment été retrouvées sur le site d'anciens pensionnats pour enfants autochtones. Mary Simon, nommée gouverneur générale, c'est donc un symbole fort. Alexandre Lepoutre.
C'est un geste de reconnaissance, une étape vers la réconciliation. À 73 ans, Mary Simon, originaire du Nunavik dans le nord du Québec, devient la nouvelle représentante de la reine au Canada. Garante de la Constitution, commandante des forces armées, son rôle est protocolaire et symbolique, mais il est surtout là pour rassembler, comme l'explique le Premier ministre Justin Trudeau.
On est, en tant que pays, en train de passer des moments extrêmement
difficile de réflexion sur notre histoire avec les pensionnats autochtones.
Ces pensionnats, d'abord gérés par l'Église, où plus de 150 000 enfants autochtones ont été arrachés à leur famille, puis assimilés. Les récentes découvertes de tombes anonymes proches d'anciens pensionnats ont ravivé le traumatisme dans les communautés autochtones. Alors, dans ce contexte, la nomination de Mary Simon à un poste honorifique était une évidence, selon Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et Labrador.
Ça devenait inévitable, évidemment, avec tout ce qu'on vit depuis plusieurs mois, plusieurs années.
Mais cette nomination ne fait pas l'unanimité partout. D'abord, pour certains autochtones, ce poste de représentante de la reine est un vestige du colonialisme qu'il faudrait tout simplement supprimer. Pour d'autres, et surtout les communautés francophones, ce qui pose problème, c'est que Mary Simon ne parle pas français dans un pays officiellement bilingue. La nouvelle gouverneure générale a promis de la prendre au cours de son mandat, dans le but, dit-elle, de rassembler tous les Canadiens.
Alexandre Lepoutre pour Europe 1.
Il assure vouloir sauver la Tunisie, l'État et le peuple tunisien. Kais Saied, le président du pays, a décidé de geler les travaux du Parlement pour une durée de 30 jours et de s'octroyer le pouvoir exécutif.
Une décision qualifiée de coup d'État par le principal parti au pouvoir, Ennahda, qui intervient après une journée de manifestations des milliers de protestataires qui réclamaient la dissolution du Parlement.
Et on termine ce journal en musique, Émilie Dez, avec les albums qui vont marquer l'été.
Et notamment celui de Billie Eilish qui sort vendredi, Angèle Châtelier.
Vendredi, Billie Eilish sortira Happier Than Ever, son deuxième album. Et le succès risque d'être au rendez-vous tant le premier a fait un carton planétaire. À seulement 19 ans, Billie Eilish a déjà reçu des dizaines de récompenses de l'industrie musicale, dont 7 Grammy Awards. Le premier single qu'elle a dévoilé de ce futur album, Your Power, en est déjà à 60 millions de vues sur YouTube en seulement un mois. C'est considérable. Et dans quelques semaines, peut-être qu'une autre artiste en arrivera au même chiffre. C'est la chanteuse néo-zélandaise Lorde qui sortira le 20 août Solar Power, son troisième album. Comme Billie Eilish, Lorde est elle aussi devenue très vite une star de la pop. Son premier album, sorti en 2013, était numéro 1 des ventes dans une quinzaine de pays. Français, il faudra attendre la fin de l'été pour découvrir enfin le disque de celle qui est arrivée deuxième à l'Eurovision cette année. Barbara Pravi sortira On n'enferme pas les oiseaux le 27 août.
Angèle Châtelier pour Europe 1.
Dans le journal d'Émilie Dez. Merci Émilie, il est 7h13.